Audible Studio présente La chute d'Hyperion de Dan Simmons, traduit de l'américain par Guy Abadia, lu par Mathieu Dahan. À John Keats, dont le nom était écrit dans l'éternité. Dieu peut-il jouer une partie vraiment significative avec une de ses propres créatures? Un créateur quelconque, même limité, peut-il jamais jouer une partie significative avec sa propre créature? Norbert Wiener, God and Golem, Inc. N'existerait-il pas des êtres supérieurs qui pourraient s'amuser des attitudes gracieuses, quoique purement instinctives, où mon esprit m'entraîne, de la même manière que je m'amuse de la vivacité d'une hermine ou des angoisses d'un daim? Bien qu'une rixe en pleine rue soit chose haïssable, les énergies qui s'y déploient sont intéressantes. Vus par un être supérieur, nos raisonnements peuvent prendre la même coloration. Bien qu'erronés, ils n'en sont peut-être pas moins valables. C'est cela, la véritable nature de la poésie. John Keats, dans une lettre à son frère. L'imagination est comparable au rêve d'Adam. En se réveillant, il s'aperçut que tout était réel. John Keats, dans une lettre à un ami. Première partie. Chapitre 1. Le jour où l'armada partit en guerre, c'est-à-dire le dernier jour de la vie normale que nous connaissions avant, je fus invité à une réception. On en donnait un peu partout ce soir-là, sur plus de 150 mondes du Retz, mais la seule qui comptait était celle-là. Je fis part de mon acceptation par l'intermédiaire de l'infosphère, m'assurai que mon smoking était présentable, pris mon temps pour me laver et me raser, m'habillai avec un soin méticuleux et me servis du disque inclus dans l'invitation et utilisable une seule fois pour me distransporter d'Espérance à Tossetti Central à l'heure spécifiée. C'était la fin de l'après-midi sur cet hémisphère de TC carré, et une riche lumière diffuse éclairait les collines et les vallons du parc Audin, les tours grises du complexe administratif, à quelque distance de là, au sud, les saules pleureurs et les feux de fougères brillants qui bordaient les rives du fleuve Tétis, ainsi que les colonnades blanches de la maison du gouvernement elle-même. Des milliers d'invités étaient en train d'arriver. Les hommes de la sécurité nous accueillirent individuellement, vérifièrent les codes de nos invitations en les comparant à notre profil ADN, puis nous indiquèrent le chemin du buffet et du bar d'un geste gracieux de la main et du bras. H. Joseph Severn ? Demanda poliment mon guide pour confirmer mon identité. Oui, mentis-je. C'était le nom que je portais actuellement, mais ce n'était pas mon identité.
La présidente Gladstone désire toujours vous voir un peu plus tard dans la soirée. Vous serez informé lorsqu'elle sera libre pour votre rendez-vous.
Très bien.
Si vous désirez quoi que ce soit en matière de rafraîchissement ou de distraction qui ne soit pas directement en vue, veuillez en exprimer le souhait à haute voix et les moniteurs de la demeure s'efforceront de vous donner satisfaction.
Je hochai la tête, fis un sourire et tournai le dos à mon guide. Avant que j'aie accompli 10 pas, il s'était déjà adressé à d'autres personnes qui débarquaient de la plateforme Terminex. De l'endroit où je me tenais, sur une petite éminence, j'apercevais plusieurs milliers d'invités dont le flot se déversait à travers des centaines d'hectares de pelouses immaculées. Plusieurs d'entre eux s'étaient déjà écartés en direction des bois ou des bosquets paysagers qui émaillaient le domaine. Au-dessus du mamelon herbeux où je me trouvais, déjà plongé dans l'ombre des haies d'arbres qui bordaient le fleuve, s'étendait le parc d'agrément au fond duquel se dressait la masse imposante de la maison du gouvernement. Un orchestre jouait au loin dans le patio. Des haut-parleurs invisibles diffusaient la musique jusqu'aux recoins les plus éloignés du parc Audin. Un véritable pont aérien de VEM reliait la plateforme de débarquement à la porte d'Istrance, située très haut dans le ciel. Durant quelques secondes, je contemplais l'arrivée des passagers aux vêtements bigarrés qui débarquaient sur le terminex des piétons. J'étais fasciné par l'extrême variété des vaisseaux. La lumière crépusculaire ne faisait pas seulement rutiler les carrosseries des habituels Viken, Alts ou Sumatso, mais aussi les ponts rococo des barges de lévitation et les coques métalliques de glisseurs si anciens qu'ils devaient déjà attirer les regards du temps de l'ancienne Terre. Je descendis lentement la pente douce qui menait jusqu'au fleuve Tétis,
en passant par les docks où une quantité invraisemblable d'embarcations disparates débarquaient leurs passagers. Le Tétis était le seul fleuve transrhétien. Il coulait, à travers ses portes d'Istrans permanentes, sur plus de 200 planètes ou lunes différentes. Ses riverains comptaient parmi les citoyens les plus riches de l'hégémonie. Les navires qui le parcouraient allaient de la plus simple coque de noix au plus somptueux hôtel flottant, en passant par de fins croiseurs racés, des trois-mâts chargés de toile, des chalands à cinq ponts, dont plusieurs semblaient munis d'un système de lévitation, des vedettes fluviales luxueuses, visiblement équipées de leurs propres portes d'Istrans, de petites îles mobiles importées des océans d'Alliance Maui, des submersibles et des hors-bords pré-égyriens, tout un assortiment de VEM nautiques façonnés à la main sur le vecteur Renaissance, et quelques yachts passe-partout aux formes cachées par les surfaces ovoïdes unies et réfléchissantes de leur champ de confinement. Les invités qui débarquaient de tous ces moyens de transport n'étaient pas moins impressionnants ou opulents qu'eux. Les toilettes allaient de la plus formelle tenue de soirée, sur des personnes qui n'avaient visiblement jamais suivi le moindre traitement Poulsen, à la toute dernière mode de tessé carré, sur des corps somptueux modelés par les plus grands aérénistes du Retz. Je m'avançais au milieu de la foule, puis m'arrêtais devant un buffet pour remplir une assiette de roast beef, salades diverses, filets de calamars volants, curry de Parvati et pain croustillant. La lumière crépusculaire avait encore faibli lorsque je trouvais un siège à quelque distance du parc. Les étoiles apparaissaient une à une dans le ciel. Les lumières du complexe administratif et de la ville toute proche avaient été exceptionnellement diminuées ce soir pour que l'on puisse mieux voir l'armada. Le ciel de Tosseti Central semblait plus clair qu'il ne l'avait été depuis des siècles. Une femme assise non loin de moi se tourna pour m'adresser un sourire.
« Je suis sûre que nous nous sommes déjà rencontrés quelque part. »
Je lui rendis son sourire, certain que ce n'était pas le cas. Elle était pleine de charme. Elle devait avoir au moins le double de mon âge, la cinquantaine bien avancée, mais elle paraissait plus jeune que moi avec mes 26 ans, grâce à l'argent et au traitement Poulsen. Sa peau était si blanche qu'elle semblait presque translucide. Ses cheveux nattés étaient relevés en chignon. Sa poitrine, plus mise en valeur que dissimulée par sa robe arachnéenne, était sans défaut. Ses yeux avaient quelque chose de cruel.
« C'est possible, » répondis-je, « mais cela m'étonnerait. Je m'appelle Joseph Severne. »
« Oh, bien sûr !» s'écria-t-elle. « Vous êtes un artiste peintre !»
Je n'étais pas un artiste peintre. J'avais été plutôt, un poète. Mais cette identité Severne, que j'assumais depuis la mort de ma personnalité vraie et ma naissance, un an auparavant, indiquait que j'étais un artiste peintre. Tout cela se trouvait dans mon dossier de la Pangermie.
« Vous voyez que je me suis souvenu !»
me dit mon interlocutrice en riant. Elle mentait. Elle avait utilisé son coûteux implant Persoc pour se donner accès à l'infosphère. Pour ma part, si je voulais en savoir plus sur elle, je n'avais nul besoin d'accéder. Quel mot plein de lourdeur et de redondance! Je le détestais malgré son caractère vieillot. Il me suffisait de fermer mentalement les yeux et je me retrouvais dans l'infosphère, évoluant au-delà des barrières dérisoires de la Pangermie, me glissant derrière les trains d'ondes des données de surface, suivant les fils brillants du cordon d'accès ombilical qu'elle était obligée d'utiliser, loin dans les profondeurs ténébreuses du flot d'informations ultra-confidentielles.
« Je m'appelle Diana Philomet, »
murmura-t-elle.
« Mon mari est l'administrateur du transport sectoriel pour le système de Sol Draconi Septem. »
J'inclinai la tête en lui serrant la main. Elle omettait de me préciser que son époux avait été à la tête des hommes de main du syndicat des racleurs de boue d'Evans Gay avant que ses protecteurs politiques le propulsent sur Sol Draconi, et que son ancien nom était Dina Lolo à l'époque où elle faisait la pute dans des maisons de passe de 4 sous pour les macros des labyrinthes pulmonaires de Midsump. Elle passait également sous silence le fait qu'elle avait été arrêtée, à deux reprises, pour s'être immodérément adonnée au flashback, et qu'elle avait grièvement blessé la deuxième fois le médecin marron qui lui portait secours. Elle ne disait pas non plus qu'elle avait empoisonné, à 9 ans, son demi-frère qui la menaçait de raconter à son parâtre qu'elle fréquentait un mineur de Plaine des Boues nommé « Ravi de faire votre connaissance, H. Philomel.
murmurai-je. Sa main était chaude dans la mienne. Elle y laissa un instant de plus qu'elle n'aurait dû.
« Ne trouvez-vous pas tout cela excitant ?»
murmura-t-elle. « Qu'est-ce qui est excitant ?» Elle fit un geste vague, censé embrasser la nuit, les globes bioluminescents qui venaient de s'allumer, les jardins et la foule.
« Oh, cette soirée, la guerre, un peu tout, quoi !»
Je hochai la tête en souriant et goûtai au rosbif. Il était saignant et excellent à souhait, mais avait l'arrière-goût salé des cuves cloniques de l'usus. Le calamar, par contre, semblait authentique. Des serveurs étaient passés avec des coupes de champagne et je goûtai au mien. Il semblait de qualité inférieure. Le bon vin, le scotch et le café étaient les trois produits que l'on n'avait pas vraiment su remplacer depuis la mort de l'ancienne terre. « Vous pensez donc que la guerre était une nécessité ?» demandai-je.
« Une foutue nécessité, même !»
Diana Philomel avait ouvert la bouche, mais c'était son mari qui venait de répondre à sa place. Il avait surgi de l'ombre derrière nous et il prit un siège à côté de nous, sous la fausse tonnelle où nous étions en train de dîner. C'était un homme de haute taille, qui faisait au moins 40 centimètres de plus que moi. Il est vrai que je suis petit. Ma mémoire me dit que j'écrivis un jour un vers où je me ridiculisais ainsi. « Mr. John Keats, haut de 5 pieds ». Mais je mesurais en réalité 5 pieds 1 pouce, ce qui est plutôt court pour une époque où Napoléon et Wellington étaient vivants et où la taille moyenne pour un homme était de 5 pieds 6 pouces. Et ridiculement petit à l'époque actuelle, où les individus originaires de mondes à gravité moyenne ont des tailles qui vont facilement de 6 pieds à 7 ou presque. De toute évidence, je n'avais pas la carrure ni la musculature qui m'aurait permis de prétendre que je venais d'une planète à gravité élevée, de sorte qu'aux yeux de tous, j'étais seulement un petit homme. Je vous livre mes pensées dans les unités qui me sont coutumières. De toutes les nouveautés auxquelles j'ai eu à m'adapter mentalement depuis ma renaissance dans le Retz, le système métrique est de loin la plus dure à accepter. Quelquefois, mon esprit se refuse carrément à essayer de penser selon les nouvelles normes. Et pourquoi cette guerre serait-elle nécessaire ? Demandai-je à Hermund Philomel, le mari de Diana.
Parce qu'ils l'ont foutrement cherché,
grogna le géant. Il avait un tic consistant à serrer sans cesse les molaires, ce qui faisait saillir ses muscles maxillaires. Il n'avait presque pas de cou et sa barbe sous-cutanée défiait visiblement les rasoirs et les crèmes dépilatoires. Ses mains étaient une fois et demie plus épaisses que les miennes et sans doute 3 ou 4 fois plus puissantes.
« Je vois, » murmurai-je.
« Ces putains d'extros l'ont bien cherché !»
expliqua-t-il en se lançant dans la nomenclature de leur tort.
« Ils nous ont baisés sur Brescia et ils nous baisent en ce moment sur... Ah, comment déjà ?»
« Le système d'Hyperion, »
lui dit sa femme sans me quitter un seul instant des yeux.
« C'est ça !»
répéta son seigneur et maître.
« Le système d'Hyperion. Ils nous ont foutrement baisés. Et maintenant, c'est à nous d'aller là-bas et de leur montrer de quel bois se chauffe l'hégémonie. Vous saisissez ?»
Mes souvenirs me disaient que, lorsque j'étais enfant, on m'avait envoyé à l'école John Clark d'Enfield, où les bravaches, dans son genre, à la cervelle étroite et aux poings comme des battoirs, ne manquaient pas. Je les évitais au début, ou bien je faisais de mon mieux pour me les concilier. Mais, après la mort de ma mère, lorsque le monde était devenu différent, je les affrontais avec des cailloux dans mes petits poings et je me relevais chaque fois de terre lorsque leurs coups m'ensanglantaient le nez et faisaient branler mes dents.
« Je saisis, » murmurai-je.
Mon assiette était vide. Je levai mon reste de mauvais champagne en direction de Diana Philomel.
« Oh, faites-moi !»
me dit-elle. « Je vous demande pardon ?»«
Faites mon portrait, H.C. Verne. Vous êtes artiste peintre, n'est-ce pas ?»«
Je n'ai ni crayon ni pinceau, » protestai-je en écartant les mains, en un geste d'impuissance. Elle plongea la main dans la veste de son mari, d'où elle sortit un crayon lumineux.
« Faites mon portrait, je vous en supplie !»
J'obtempérai. Le dessin prit forme devant moi, les courbes montant et descendant dans les airs, puis se refermant sur elle-même comme des filaments de néon dans une sculpture filiforme. Une petite foule s'était assemblée pour me regarder faire. Quelques applaudissements crépitèrent lorsque j'eus terminé. Le portrait était passablement ressemblant. J'avais bien rendu la longue courbe voluptueuse du cou, le haut chignon, les pommettes saillantes,
et même la brillance légèrement ambiguë du regard de mon modèle. Je n'aurais pas pu faire mieux compte tenu de tout l'ARN que j'avais absorbé et de l'entraînement que j'avais subi pour assumer cette personnalité. Seul le véritable Joseph Severn aurait fait mieux. Je l'avais vu faire mieux. Il avait dessiné mon portrait sur mon lit de mort. Diana Philomel était radieuse de contentement. Hermoun Philomel plissait sombrement le front. Un cri monta dans la foule.
« Les voilà !»
Il y eut un murmure général, ponctué d'exclamations, puis le silence total se fit. Les globes et les lampadaires du jardin baissèrent d'intensité. Des milliers d'invités levèrent les yeux vers le ciel. J'effaçai mon dessin et remis le crayon lumineux en place dans la poche d'Hermund.
« C'est l'armada »,
déclara un monsieur distingué d'un certain âge en uniforme noir de la force. Il leva son verre pour indiquer un point du ciel à sa jeune compagne.
« Ils viennent d'ouvrir la porte »,
reprit-il. « Les éclaireurs vont passer les premiers, suivis des vaisseaux torches de l'escorte. » Le portail d'Istrance militaire de la force n'était pas visible de l'endroit où nous nous trouvions. Même de l'espace, cependant, j'imagine qu'il n'aurait ressemblé à rien d'autre qu'une aberration rectangulaire sur fond stellaire. Mais les traînes de fusion des vaisseaux éclaireurs étaient probablement visibles. D'abord sous la forme d'essaims de lucioles ou de somptueuses diaphanes, puis sous l'aspect de comètes éclatantes lorsque les réacteurs principaux seraient mis à feu et que l'armada traverserait les couloirs de circulation cislunaire du système de Tau-Ceti. Un nouveau soupir collectif s'éleva lorsque les vaisseaux-torches surgirent du portail, laissant derrière eux des traînes 100 fois plus longues que celles des éclaireurs. Le ciel nocturne de TC carré fut soudain barré, du zénith jusqu'à l'horizon, par des rayons rouge et or. Quelque part, des applaudissements s'élevèrent. Quelques secondes plus tard, les pelouses, les bois et les allées à la française du parc Audin de la maison du gouvernement résonnèrent de vivats et d'acclamations, tandis que la foule élégante de milliardaires, de personnalités du gouvernement et de membres de maisons nobles appartenant à 100 mondes différents, oubliait tout à l'exception d'un chauvinisme patriotique et d'une soif de guerre qui ne s'était pas manifestée depuis plus d'un siècle et demi. Je ne participais pas aux applaudissements. Ignoré de tous ceux qui m'entouraient, je portais un nouveau toast, non pas à Lady Philomel, cette fois-ci, mais à l'indécrottable stupidité de la race humaine. Puis je bus le reste de mon champagne. Il était éventé. Au-dessus de nous, les vaisseaux les plus importants de la flotte s'étaient distranslatés dans le système. Je savais, par simple contact avec l'infosphère, dont la surface était à présent si agitée par les giclées d'informations qu'elle ressemblait à une mer en furie, que le gros de l'armada spatiale de la Force consistait, outre une flotte de 100 vaisseaux de spin principaux, en plusieurs porte-croiseurs d'un noir mat, profilés comme des javelots, avec leurs bras de lancement repliés contre leur coque, en un certain nombre de vaisseaux de commandement 3C, aussi somptueux et massifs que des météorites de cristal noir, en destroyers à la coque bulbeuse évoquant les vaisseaux torches aménagés dont ils étaient issus en réalité, en systèmes périphériques de défense représentant plus d'énergie que de matière, leurs boucliers de confinement réglés pour une réflexion totale, tels des miroirs étincelants renvoyant la lumière de Tau-Ceti et les centaines de traînes embrasées qui les environnaient. En croiseurs légers évoluant comme autant de requins parmi les bancs plus lents des vaisseaux plus gros, en transport de troupes massifs chargées de milliers de marines de la Force dans leur soute à gravité zéro, en plusieurs dizaines de bâtiments de soutien, frégates, chasseurs rapides, lance-missiles automatiques, relais mégatrans, et pour finir, en vaisseaux portiers d'Istrance, sous la forme de dodécaèdres massifs hérissés de leurs forêts magiques d'antennes et de sondes. Tout autour de la flotte, tenue à bonne distance par le centre de coordination de la circulation, évoluaient les yachts, les virsols et les vaisseaux privés du système, dont les voiles captaient la lumière du soleil, reflétant la gloire de l'armada. Les invités de la maison du gouvernement redoublèrent de vivats et d'applaudissements. Le vieux monsieur en uniforme noir de la force versait silencieusement des larmes. Non loin de là, des caméras dissimulées et des imageurs à large bande transmettaient cet instant sublime sur tous les mondes du Retz et, par mégatrans, sur des dizaines de planètes extérieures. Je secouai la tête, toujours assis.
H. Severn ?
Une garde de la sécurité était penchée vers moi.
Oui.
Elle hocha le menton en direction de la demeure gouvernementale.
La présidente Gladstone peut vous recevoir maintenant.